est blanche.
40 nuances de Sista. Les Sista du Next 40 comme vous ne les avez jamais entendus, animés par Solène Etienne, cofondatrice du Brain Studio Feuille Blanche.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les Sista du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
Comment se protéger des fake voices de demain? D'ailleurs, c'est peut-être pas Thomas qui vous parle, mais Solène Etienne qui a repris le micro. Comment faire pour qu'une IA reconnaisse une émotion dans la voix de son interlocuteur? Comment humaniser une voix de synthèse? Comment personnaliser une playlist musicale à votre humeur du moment? Comment sécuriser la qualité de vos fichiers audio? Et comment utiliser la perception sonore pour améliorer la qualité de vie en ville ou pour faciliter la mobilité? Ça fait beaucoup de comment, et je vais vous dire comment moi, ou presque moi, vais y répondre. Pour y répondre, j'ai le plaisir de retrouver Nathalie Birochaud. Bonjour.
Bonjour.
Nathalie Birochaud, tu es la CEO d'IRCAM Amplify. Tu es la Sista de Denis chez Believe, qui nous a fait le plaisir, un, de sa présence dans nos studios pour 40 nuances de Next, et deux, de te choisir. J'ai regardé ce que vous faisiez, je connaissais pas, je trouve ça fabuleux. Ne serait-ce que de poser les thèmes comme ceux que j'ai évoqués, en fait, c'est l'avenir par la voix, c'est l'avenir par le son, et c'est votre quotidien.
Absolument, exactement. On y travaille.
Je t'ai proposé de démarrer en musique et choisir une musique qui représentait l'aventure IRCAM Amplify. Et pour ça, alors c'est très drôle, je fais un peu de teasing, mais c'est une musique dont la science a prouvé qu'elle rendait heureux. Je te propose, on va voir.
Mais je ne le savais pas avant de la choisir, hein, ouais. Je peux témoigner.
Eh ben écoute, c'est un très beau hasard, on écoute. Alors, je veux pas faire de la peine à tous ceux qui attendaient la suite, mais on est quand même là pour parler de toi, mais c'est un vrai bonheur, cette chanson.
Et on est tous en train de sauter dans le studio, ça se voit pas, mais...
Écoute, ça s'entendra si on a la voix qui hoquette en bougeant de part et d'autre du micro. Alors, la première question que je voulais te poser sur IRCAM Amplify, c'est quel était le problème avant IRCAM Amplify? Tous les projets naissent de quelque chose qui manque ou qui est...
C'est intéressant de poser la question de ce point de vue-là. Alors, je suis, comme je suis une éternelle optimiste, je préfère voir les solutions que les problèmes.
Ah ben, c'est justement donc, ce que vous faites.
Voilà. Donc, en fait, c'est il n'y avait pas de problème, en fait. Au contraire, il y avait des opportunités, il y avait des idées. Il y avait un terreau, il y avait quelque chose. Et à l'IRCAM, ils se sont aperçus que c'était dommage de ne pas aller plus loin dans cette idée de valoriser encore plus ce qui sortait du labo.
Alors voilà, on va revenir peut-être sur la genèse. IRCAM, déjà, rappelez ce que c'est. Ouais. C'est un institut de recherche.
C'est l'Institut de recherche et coordination acoustique et musique. C'est une institution qui a été créée dans les années 70 par Pierre Boulez, très renommée, rattachée au Centre Pompidou. Qui a trois missions principales de service public. Une mission de création artistique musicale contemporaine, avec des compositeurs en résidence, beaucoup d'artistes qui travaillent dans l'écosystème de l'IRCAM. La deuxième, qui est de la recherche et développement de la R&D sur le son et la musique, en lien direct avec cette création. Oui. Et puis, une troisième mission de transmission, de pédagogie. Et il y a même donc des masters diplômants, en tout cas un qui s'appelle ATIAM, qui forme au métier du son et qui forme les plus grands experts du son dans le monde.
Et comme souvent, les recherches, le résultat des travaux peut amener à des milliers d'opportunités. Et c'est comme ça qu'est né IRCAM Amplify.
En fait, au fondement même de l'IRCAM, ce qui est génial, dans le sens le génie, hein, c'est d'avoir mis au même endroit toutes les compétences qui existaient à l'époque autour d'une thématique et d'un métier, qui est le son et la musique.
Et le son est partout, en fait.
Et comme le son est partout, et qu'il y a eu une approche très holistique de cette question-là, de cette matière, en mettant au même endroit des chercheurs, des ingénieurs, des artistes, des designers, des compositeurs. Donc, tous ces cerveaux se sont croisés, malaxés collectivement, et donc ont créé un objet vraiment très puissant et assez unique, où il y a eu un rebond permanent depuis plus de 40 ans entre la volonté des créateurs, l'ambition des créateurs aussi, parce qu'avoir un artiste comme client, c'est le plus difficile des exercices. Et donc, a nourri en fait, le rebond avec le développement des outils. Donc, l'IRCAM incarne ce fameux continuum art-science-technologie, puisque pour créer de la musique, notamment de la musique contemporaine et électronique, eh bien, les ordinateurs et les algorithmes, évidemment,
ont
un rôle. Et c'est ça que Pierre Boulez a... Au départ, il a senti que l'arrivée des ordinateurs et les mathématiques allait profondément modifier la manière de créer des sons.
Alors, on va rentrer dans le dur. D'ailleurs, j'ai pas inventé mes questions par hasard. Hein. Toutes ces questions que je posais sur le comment, la réponse est IRCAM Amplify. Et typiquement, sur toutes ces questions, il y a des applications qui ont déjà été menées, ou c'est des sujets de recherche encore à date. Je pense notamment aux fake voices. On connaît les deepfakes vidéo / audio.
Il y a de tout. Alors, globalement, c'est ce qu'on appelle la maturité des produits et des technologies. IRCAM Amplify, il faut le prendre comme un muscle. Un muscle qui aurait un mouvement de pompe, qui est rattaché au laboratoire et qui, de l'autre côté, se nourrit
de besoins
et de problèmes et de tendances observées dans différentes verticales, dans différentes industries. Et c'est parce qu'on a les deux, c'est parce qu'on a la moitié de notre cerveau dans le labo, entre guillemets, et l'autre moitié dans les industries, qu'on arrive à créer des produits qui répondent aux usages attendus.
Pour citer quelques industries, hein, je crois qu'il y a les industries, évidemment, ça paraît logique, culturelle, créative, mais aussi la robotique, les objets connectés, les sujets de mobilité.
Oui.
Pas que hein, santé, bien-être, on voit très bien l'impact que peut avoir le son, et aussi le luxe et le retail, où là, c'est sûrement un sujet d'émotion aussi.
Oui, ouais. Absolument. Alors, parce que c'était la question au tout départ, dans les applications les plus concrètes qu'on peut déjà observer, c'est dans l'industrie musicale et dans le retail et le luxe qu'on a les sujets les plus matures. Et puis, quand on va vers les sujets moins matures, effectivement, on est dans la robotique, les objets connectés. Entre les deux, il y a l'automobile où on est un peu au milieu du guet, entre guillemets. On n'a pas encore fini le travail de maturation. Mais c'est ce travail de pyramidation et de maturation. Et si on prend chimiquement parlant, de catalyse, en fait, des résultats et des travaux de recherche et des savoir-faire du labo qui est mis en catalyse grâce à l'élément supplémentaire dans l'équation qui est la connaissance du marché et l'observation des tendances des industries qu'on veut cibler.
Je reviens sur cette notion de mobilité. Tu vois, il y a une réflexion autour de la perception sonore pour améliorer la qualité de vie en ville. On connaît l'impact de la nuisance sonore. Je crois que d'ailleurs, le vrai silence, en fait, on ne le connaît pas.
Il faut venir dans la chambre anéchoïque à l'IRCAM pour avoir du vrai silence.
Et c'est accessible au public ?
Non.
Non, il faut venir.
Une chambre anéchoïque, c'est des lieux où on annule le son, en fait. On capte, en fait.
Écoute, je vais le prendre comme une invitation
absolument
personnelle.
Elle est magnifique, elle est vintage, en plus.
J'ai toujours rêvé de ça.
C'est la plus belle au monde, il faut venir.
Surtout que je suis jeune papa de deux enfants, donc...
Oui, j'y vais régulièrement aussi, du coup.
Alors, peut-être plus people, mais pour projeter aussi sur des applications, vous faites du voice cloning,
ouais.
Notamment pour Thierry Ardisson. Alors, sur son projet d'émission, je trouvais ça fabuleux.
Alors, dans les applications dont je parlais tout à l'heure, qui sont vraiment les sujets qui sont arrivés à maturation, où on a réussi à vraiment catalyser, englober des années de recherche. Il faut bien avoir conscience que s'il y a ce résultat pendant une heure d'émission, une heure et demie d'émission, où Dalida reparle et dit des choses qu'elle n'a jamais prononcées,
dire, oui,
mais qu'elle aurait pu dire avec ce niveau de qualité-là, c'est parce que derrière, il y a 10 ans de recherche dans les équipes, en l'occurrence dans l'équipe analyse synthèse de l'UMR, et que dans cet UMR, ce labo, quand je dis UMR, c'est unité mixte de recherche, il y a derrière le CNRS, Sorbonne Université, et évidemment l'IRCAM, et même le ministère de la Culture en tutelle non scientifique. C'est hyper important de comprendre ça. C'est cette centaine de chercheurs qui sont à l'IRCAM qui donnent la puissance de frappe pour, en quelques mois,
aboutir,
parce que c'est vrai, c'est
ouais,
en quelques mois, aboutir à ce niveau de résultat, à ce niveau de qualité.
Quelques mois à partir du moment où il y a cette demande, ou quelques mois pour faire une émission?
Une
fois que la techno est là.
Alors là, on est dans un cas particulier où c'est des moteurs d'intelligence artificielle basés sur des réseaux de neurones profonds.
Qui vont analyser des heures de documentaires, j'imagine, ou d'interviews.
Même
de
pas,
même
20
pas.
Minutes, ça suffit hein,
okay.
D'analyse. Avec,
à partir de 20 minutes de ma voix, tu es capable de la reproduire si un acteur ou un...
Ouais.
Donc ça veut dire que potentiellement, je peux continuer demain les interviews Sista et remettre la voix de Solène pour...
Ah ça y est, ça existe ça. Oui, oui. Ça existe. Il faut un comédien qui va jouer le texte, qui prononce.
Oui.
Puisque pour le coup, pour avoir l'intonation et l'intention, il faut avoir un humain qui parle au départ. Et par-dessus ça, entre guillemets, la machine est capable de reproduire n'importe quelle voix avec un échantillon de 20 ou 30 minutes. Oui, tout à fait.
Incroyable. D'autres applications comme ça qui peuvent être sympas à partager avec les auditeurs et auditrices.
Si on reste dans le secteur de la voix, parce qu'on fait quand même un podcast, alors j'aime bien. On peut parler de l'application Vocalize qui est développée, partagée et mise à disposition par la MGEN.
Ouais.
À destination au départ des enseignants. Et cette application, c'est comme un coach vocal. Donc on installe ça sur son téléphone. Tous les matins, on peut s'entraîner à faire des exercices avec l'application, analyser son profil vocal.
À l'image d'un coach vocal qu'on peut avoir en direct.
Et le dernier exercice qu'on a développé avec eux, c'est une analyse de discours. Donc l'enseignant va pouvoir s'entraîner à prononcer son discours, enfin en fait son cours ou
oui,
autre chose, et l'appli...
Est-ce qu'il est impactant? Est-ce qu'on le retient? Ça va...
Non.
C'est quoi l'idée?
Le rythme, les respirations, les blancs, les eux, c'est vraiment sur la partie...
Tout ce qui vient parasiter un discours.
Exactement. Voilà.
C'est intéressant.
Et c'est plus tenter d'aider à améliorer la prise de parole en public. Alors, les politiques, on l'a hyper bien compris. Moi, je l'ai pas encore bien compris. Hein, je fais des mais c'est fondamental. Et donc, on peut avec du on fait des exercices et puis on a du rétrofeedback.
Travail,
on peut comprendre,
de respiration,
en fait.
Voilà. De gestion des silences.
Voilà, exactement. Donc ça tourne. On peut allez-y télécharger
Vocalize, accessible
ouais,
à tous.
Oui, bien sûr, c'est gratuit.
Bah, on repartagera le lien.
Oui, avec plaisir.
Ah ouais, j'ai envie de continuer parce que là, c'est bluffant.
Voilà, on ouvre la malle au trésor.
Voilà, on va finir. Je voulais beaucoup aussi parler de la femme derrière l'entreprise, mais j'ai l'impression qu'on pourrait faire 3 heures sur ces sujets de recherche et ces applications. C'est intéressant. Du coup, j'en veux encore.
Alors, pour ranger les choses un petit peu, parce que c'est le risque d'avoir l'impression que c'est un truc infini et que ça part dans tous les sens.
Ça l'est pas?
Ça ne l'est pas du tout.
C'est pas infini, tout ce qu'on pourrait imaginer.
C'est infini, mais c'est pas en bazar.
Oui.
Dans le
Il
sens.
Il y a 3-4 grands axes de
en
travail.
En fait, ce sur quoi on se focalise, c'est vraiment l'expérience d'un humain, avec un grand H, puisque bien sûr, ça peut être une femme. L'expérience d'un humain qui est au centre d'une vie, au centre d'usage,
ouais,
de sa vie. Et cet humain, nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas assez conscient de l'expérience sonore qu'on a à chaque minute de notre vie en fonction de ce qu'on est en train de faire.
Alors, ça a un impact sur nos émotions, sur notre humeur,
exactement,
sur notre fatigue.
Exactement. En fait, c'est un impact énorme. Alors, certaines marques l'ont bien compris, notamment le luxe, puisque ça a un impact sur, par exemple, ce qu'on décide, ce qu'on achète. Bon, ça, c'est le côté peut-être un petit peu moins sexy de la chose. Mais en vrai, on sait tous qu'on a des réflexes. Quand on veut se garer, que le créneau est un peu difficile, on va baisser le son. On va se mettre dans une posture où on donne de l'espace à notre cerveau. On l'a tous fait, sauf qu'on ne s'en rend même pas compte.
D'où la difficulté quand on a des klaxons derrière et ça rajoute.
On a tous ressenti cette sensation en concert d'être complètement en transe et transporté dans des états émotionnels qu'on a du mal à expliquer et qu'on a du mal à reproduire. Il faut savoir que c'est le même état émotionnel typiquement que c'est la même zone du cerveau qui était activée quand on était des hommes de Cro-Magnon et qu'on fuyait face au danger, réflexe de survie. Donc il y a des trucs assez hallucinants concernant le son.
Très instinctif.
Très instinctif. Exactement, très intuitifs, qui sont variables en fonction des personnes, ça dépend de ce qu'on a vécu avant. Et donc, pour revenir à IRCAM Amplify, ce projet était travaillé sur l'expérience de cet humain, l'expérience sonore, et son interface avec des objets, son interaction avec des objets. Donc, c'est là qu'il y a le pan sur la voix. Comment j'interagis aujourd'hui, demain, avec un téléphone, mais finalement, que ce soit un téléphone, une voiture, des lunettes, une montre, c'est pas l'objet, c'est quelle va être mon expérience à ce moment-là. J'interagis pour être plongé à tout moment dans une expérience sonore et dans une bulle sonore. Cette bulle sonore, en fait, elle va devenir de plus en plus intime, personnelle, contextualisée. Et je crois beaucoup au fait que dans les générations futures, elle sera même très sensible à ce qui nous rassure. Elle connaîtra les caractéristiques de la voix de notre mère, les berceuses qui nous calmaient quand on était enfant, les concerts justement où on est rentré dans ces états-là complètement délirants, les choses qui nous agacent. On a tous des sons qui nous rendent ouf. Bon, elle le saura, elle le sentira. Et donc, elle sera très, très personnelle et elle nous suivra au fur et à mesure de notre vie.
Pour adapter les ondes en fonction de...
Vous reconnaissez cette vidéo de cette vieille dame allemande, cette ancienne danseuse étoile qui a Alzheimer, qui est dans son fauteuil, elle a plus de 90 ans, qui peut plus marcher, qui est très très âgée et qui ne se souvient de rien. Et elle entend la musique du lac des cygnes et elle se met à danser. Alors évidemment, avec ses bras et le haut de son corps, mais c'est extrêmement fort, c'est extrêmement émouvant. Et
Son, elle est revenue.
Son cerveau se réactive, en fait. Ouais. Elle retrouve les gestes de la chorégraphie.
D'où la bulle sonore et des possibles aussi sur le secteur de la santé, du bien-être.
Exactement. Donc là, on est vraiment dans l'immersion sonore et l'expérience sonore et la bulle. Et enfin, cette bulle, elle est remplie. Donc ça, là, c'est la partie plus ce qu'on appelle le son comme data. Qu'est-ce qu'on écoute, à quel moment pour le bon usage?
Je reste sur la santé. Alors évidemment, il y a plein d'usages. Typiquement, sur la santé, il y a déjà des applications très concrètes, des expériences qui ont été menées sur...
C'est le secteur où, au niveau d'Amplify, on est les moins matures. Au sein de l'IRCAM, au sein du laboratoire de l'UMR, c'est l'un des deux grands piliers de recherche en cours, le CARE, le Centre for Care. Et il y a des travaux de recherche alors, très, 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 très vastes. Hein. On pourrait y passer 3 heures. Et je ne suis vraiment pas la mieux placée pour décrire ça. Mais évidemment, avec des applications très puissantes dans le secteur de la santé, comment le son peut aider à réparer des acouphènes, aider à se rééduquer un membre, aider à apaiser des états de douleur, accompagner dans un choc post-traumatique, accompagner des personnes qui sont dans le coma, etc., etc.
Donc ça, on peut imaginer des applications qui arrivent à 5 ans, 10 ans. Voilà. C'est beaucoup plus proche, non? C'est à peu près cet
horizon-là. Honnêtement, j'en sais rien.
Et alors du coup, comment se fait cette passerelle entre les projets de R&D à l'IRCAM et un moment, un passage à IRCAM Amplify? C'est la demande d'une industrie, d'un client?
C'est la question clé. Ouais. C'est ça qu'on a construit. IRCAM Amplify, c'est ça. C'est cette capacité, cette faculté à avoir des racines et des connexions et de la synergie avec le labo. Avec au sein d'Amplify une équipe technique avec des ingénieurs et des développeurs qui sont en capacité d'aller discuter avec ces chercheurs, de comprendre, d'exploiter.
Mais qui arrivent avec une problématique qu'on vous soumet.
Oui, mais on répond pas que. Ouais. Si on ne répondait que aux questions posées par nos clients,
il y a beaucoup de choses
sur lesquelles on passerait à côté. C'est pas français ce que je viens de dire.
Non, mais vous passeriez à côté.
Mais c'est justement un peu de ça. mais il ne faut pas tomber dans le piège de ne répondre qu'à ces questions-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait énormément de veille et d'analyse de marché pour compléter. Voilà. Et c'est un travail, ça bouge tout le temps. Enfin, on est un organisme vivant et notre savoir-faire, c'est de faire maturer de la techno qui sort d'un labo et de l'amener vers un produit. Parce que si ça se trouve le bon produit aujourd'hui, c'est pas le bon produit dans 2 ans. Et il y a 2 ans, c'était pas non plus le bon moment. Donc, on est entre du timing, de la définition de produit, le bon modèle économique également. C'est pas pareil de vendre un service, de vendre une licence, de créer une boîte. On est agile là-dedans aussi. Tout est possible. Et donc, c'est créer le bon produit, l'encapsuler dans le bon modèle économique, au bon moment, pour le bon marché. Voilà, une équation, un système, 4 équations, 4 inconnues, je vous laisse.
J'ai toujours été nul en maths.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Comment t'es arrivé là?
Je sais pas. Qu'est-ce que je dirais? Pardon, je bégaye. C'est pourtant facile comme question. Je n'en sais rien. Je pense que j'ai été curieuse. J'étais assez. J'avais pas de plan. J'ai eu la chance de jamais chercher de travail. J'ai rencontré des gens incroyables sur ma route. Et j'ai pris des risques, je pense aussi. Parce qu'il y a certains jobs où je suis allée où.
On t'a dit n'y va pas.
Mes amis me disaient, ouais. mais pourquoi?
Exemple.
T'es sûr? Je sais pas. Je sors du conseil pour poursuivre l'un de. Enfin, mon client à l'époque qui arrivait, lui, à Radio France pour reprendre le chantier de la rénovation de la Maison Ronde. Et il me dit, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une adjointe. Bon, j'avais jamais fait de travaux publics, ça m'intéressait pas vraiment sur le papier de faire de la construction, mais je me dis, mais viens, ça va être génial.
Histoire de rencontre, quoi, ouais, c'est.
Ok. Donc, je pense que c'est. Et puis, j'ai eu la chance de tomber sur des personnalités qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit, vas-y, un peu, pas ta carte blanche, mais presque, en fait, hein, quasiment. Donc, ça, c'est.
On fait un flashback encore un peu plus loin.
Voilà.
Tu viens d'où?
Je suis né où?
Tu viens d'où? C'est volontairement large pour vous emmener où on veut.
Mon corps à moi, mon enveloppe corporelle est né dans le Val d'Oise, dans une charmante bourgade qui s'appelle Cormeilles-en-Parisis, donc dans le 9-5. Voilà, banlieue parisienne. Mes parents, toute ma famille vient du nord de la France.
Si après coup on...
Donc il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru.
Si on... Après coup, on refait toujours le match de manière plus facile. Est-ce que tu vois dans ton enfance les indices qui ont fait de toi la femme que tu es aujourd'hui?
Ah oui. Mes deux parents viennent du Nord, ont envie tous les deux de fonder une famille et donner à leurs enfants toutes les clés pour... réussir et avoir une belle vie. Et ils étaient tous les deux ingénieurs. Ils sont à la retraite, mais... et on est 3 filles, et on est toutes les 3 ingénieurs. Donc, je pense que dans notre enfance, c'était à la fois des maths au petit déjeuner. Ils nous ont laissé le choix, mais c'était quand même... le diplôme d'ingénieur, c'était quand même une garantie pour avoir du travail et réussir, enfin, quelque part. Ça dépend de la définition de la réussite, mais en tout cas, avoir un travail et... Une carrière, entre guillemets. Et en même temps, à 4-5 ans, je passais mon temps à dessiner, à saouler mes parents pour faire de la peinture. Et bon, ça, on ne sait pas trop d'où ça vient, mais ça vient de là aussi.
C'est un mélange de créativité, de méthode.
Oui, je pense. Ouais. Ouais. Ouais.
C'est un vrai sujet aujourd'hui, parce qu'il y a très peu de femmes ingénieures, trop peu en tout cas, et trop peu en proportion, au-delà du fait que de toute manière on manque d'un...
Mon père est un grand ingénieur, féministe, on est d'accord.
Et il y a toujours cette question qui se pose de pourquoi. Alors du coup, tu es le contre-exemple avec tes sœurs, mais est-ce que tu saurais expliquer le pourquoi?
Ça peut faire peur. Je pense que quand on est une petite fille ou une jeune fille, ça peut faire peur de se retrouver dans des environnements où il n'y a que des garçons. Il faut avoir le caractère aussi pour répondre pour dire ben non, en fait, on est au même niveau, t'es pas plus fort que moi. Il y a tout un tas de codes à déconstruire. Puisque partout, hein, on lit, on voit au cinéma, on lit dans les livres, même dans les livres d'histoire, enfin partout, on nous met des codes dans la tête, des figures.
Donc,
en fait, on apprend depuis le premier jour où on commence à nous raconter des histoires que, bah, que les soldats c'était des hommes, que les chasseurs c'était des hommes, que les constructeurs c'était des hommes, que bah non, en fait, il y avait aussi des femmes. C'est juste qu'on a oublié de le dire. Donc c'est en train de changer et c'est bien de le savoir comme ça. Peut-être qu'on va transmettre autrement aux prochaines générations. Mais comme on a ces codes-là dans la tête, et qu'en plus, donc, ça a créé des environnements où il y a plus de garçons, ça peut faire peur. Et puis, j'imagine quand même que les filles sont... j'aime pas faire des trucs de genre, mais quand même, en proportion, je me rends compte qu'il y a moins d'assurance. Et on est peut-être... notre premier réflexe, c'est de dire « Oh là là, est-ce que je vais en être capable ?» Donc, on y va peut-être avec un peu plus de fragilité. Suffit qu'en face, on ait quelques garçons très sûrs d'eux qui, au contraire, nous disent « Mais t'y arriveras jamais, t'es trop nul, laisse tomber. » Bon, bah, ça peut démotiver un petit peu, quoi. Donc, non, je pense qu'il faut juste...
Petite, parce que ça fait partie aussi peut-être des sujets et encore une fois de ce qui est projeté. Je pense aux petits chimistes ou aux pendants, tu sais, ces jeux, je sais pas si t'as vu des jeux comme ça, mais où sur les boîtes, c'est que des garçons. Ou c'était que des garçons, d'ailleurs, ça a peut-être changé. T'avais tout ça, toi?
Oui et non. On était en même temps, on faisait... du dessin, de la musique. Après, oui, aux anniversaires, on avait des livres sur l'astronomie. Je pense que c'est au quotidien, en fait. C'est au quotidien. C'est des choses qui sont passées.
Comment nourrir la curiosité.
Voilà. C'est tu sais pourquoi l'avion il vole, là ? Tu sais pourquoi on peut construire un pont qui monte aussi haut, est-ce que tu t'es déjà posé la question de... Et en fait, quand on l'amène, c'est qu'ils sont là, l'enfant, après, de lui-même...
Il demande pourquoi.
Il demande pourquoi, ou alors il pense, lui, à une question, parce que son esprit va commencer à dire, on peut chercher des problèmes, en fait. On problématise. Moi, je le vois très bien avec mes enfants, c'est quand on leur donne ce petit réflexe, en fait, maintenant, c'est eux qui viennent, et alors comment ça marche? Alors du coup, attends, parce que là, c'est un...
Il y a des parents qui n'aiment pas ça, hein, ils disent toujours pourquoi. Ah. C'est important de prendre ce temps.
Ah, oui, ouais. Je trouve ça génial. Moi, alors c'est vrai, quand il y en a eu 52 000 dans la journée, à 19h30, on est un peu
surtout
fatigué.
Sur le même pourquoi.
oui, c'est important. Ah oui, non, c'est... Oui, moi, je trouve ça...
Tu fais quoi, toi, pour éveiller cette curiosité chez tes enfants?
Bah ça, je dirais déjà, tiens, tu t'es demandé pourquoi si ou pourquoi là, regarde, ce truc-là, il flotte, t'as vu quand tu le mets au fond du bain, t'as vu ce qui se passe. C'est des petits trucs.
Tu leur parles de ce que vous faites au travail?
Ah oui, ouais. Bah ouais.
Ils ont quel âge pour me projeter un peu?
7, 4 et moins d'un an, enfin, ouais. Vient de naître. Donc oui, les deux plus grands, bah, notamment la plus grande, ça commence à... ça y est, il y a des déclics. Alors ouais. J'adore cette sensation, le déclic dans les yeux, c'est... Oh waouh, ok,
on peut faire ça et ouais.
Donc et puis c'est après ça commence à se développer honnêtement entre les livres, les activités, il y a beaucoup de choses, enfin d'activités, des musées pour les enfants, des à mon époque c'était le palais de la découverte, je me rappelle, on y allait assez souvent mais là il y en a plein maintenant, des trucs comme ça
à la Villette, il y en a plein,
il y en a plein.
Je te propose d'éveiller nos réflexions à nous qui t'écoutons. Si tu as un livre, un film, une expo, un documentaire, un spectacle, une expérience, ce que tu veux, que tu aimerais partager avec nous.
J'ai combien de temps là?
On a la vie devant nous.
Ouais, c'est ça. Tellement. Celle qui est la réponse qui est un peu plus dans la sphère pro, même si c'est des lectures que j'ai dans la vie perso, l'un des livres que j'ai adoré dévorer, qui me nourrit beaucoup dans mon travail, à moi, ce que j'estime d'être ma mission dans ce que je construis, c'est Frédéric Laloux avec Reinventing Organizations, qui vraiment se repose la question de c'est quoi, ça veut dire quoi une organisation,
à quoi ça sert,
comment on la construit, pourquoi il y a différentes organisations qui se sont mises en place et finalement des fonctionnements qui dysfonctionnent. Donc ça, j'adore. En fait, voilà, vraiment la matière humaine et le fait de mettre 2, 3, 15, 10, etc. Je fais pas dans le, c'est pas grave, dans le bon ordre, en symbiose, et de réussir à ce que ce collectif-là avance en synergie, vraiment, ça, je trouve ça passionnant et ça me guide au quotidien.
Évidemment, il faut se plonger dans le livre, j'imagine, pour prendre toute la matière qui peut y avoir dedans. Mais toi, t'en as retenu quoi de ce qui fait cette symbiose?
Le principe même, c'est de déconstruire cette notion d'organigramme et de hiérarchie. Donc, c'est redonner la parole. Bon, c'est un peu galvaudé comme expression, mais c'est donner du pouvoir.
Non, mais ça passe par là.
À chacun, en fait. Chacun, en gros, chacun dans l'entreprise.
A des choses.
A des choses,
à
des
partager,
idées.
Ouais. Quelle que soit sa fiche de poste.
Exactement, quel que soit son niveau hiérarchique. Et, ouais. Et c'est, en fait, en redonnant au terrain la capacité à dire c'est ça qu'il faut faire, mais bien organisé, évidemment, qu'on tire le plus possible d'une organisation. C'est de l'organisation horizontale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de décision. Parce que le
un
pire,
moment, faut décider.
Le pire,
oui,
c'est de ne pas avoir de décision. Il faut un cap, il faut un plan. Mais par contre, dans l'état d'esprit, ça dit beaucoup. Moi, j'ai vu différents types d'organisations. J'ai testé pas mal de boîtes très différentes, au final, que ce soit en tant que consultante ou vraiment dans l'organisation. Et donc, c'est assez passionnant à observer et à construire encore plus.
Et ça, typiquement, à la suite de cette lecture, est-ce que tu as, sans forcément, sauf si tu as des détails particuliers en tête à partager, mais est-ce que ça a amené à des changements dans ton organisation?
Ah, bah, en fait, en l'occurrence, IRCAM Amplify, il n'y avait personne, donc j'ai construit l'organisation. Quand je suis arrivée.
Et tu avais déjà lu l'ouvrage?
Ah, oui. Là, ça fait plusieurs années. D'ailleurs, en termes d'accessibilité, il y a une version que je recommande beaucoup, qui est une version illustrée, moi qui aime le dessin, qui se parcourt. Voilà, franchement, ça se lit hyper vite, hyper bien. Et donc, c'est plus la mise en œuvre de ça qui est passionnante. C'est la décentralisation de la décision, de la. C'est ouais. J'ai pas modifié non dans mes postes précédents. Ça s'appliquait pas.
Et typiquement, il y a des. Alors, j'allais dire écueil, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais des difficultés dans la mise en place.
Quand on construit une équipe, évidemment, il y a des difficultés. Enfin, c'est aussi exaltant que difficile. Bien sûr, le risque, c'est de justement de tomber dans la non-décision, dans le consensus permanent, et au final, il n'y a jamais rien qui en sort. Et c'est encore pire, tout le monde est frustré, parce ouais. que si, en plus, les gens
ont l'impression de
donner leur avis,
mais
bien sûr, et qu'on n'avance pas et qu'on ouais. s'englue dans... Donc, c'est l'équilibre entre créer un écosystème où chacun donne le meilleur de lui-même. S'il a une idée, surtout, il faut la donner. Mais en même temps... Il faut calibrer tout ça et c'est pas non plus.
Après, il faut les moyens humains et, voilà, c'est... et que ça rentre dans une
Exactement.
Stratégie.
Voilà, donc c'est l'équilibre à trouver, c'est ça.
Je pense que tu allais nous partager, avant que je te relance, d'autres lectures ou d'autres sujets que tu aimerais partager.
Ah, moi, sinon, dans la sphère, vraiment, si je tombe dans le perso, dans ce que ça va être la peinture énormément. Bizarrement, bien plus que la musique. Mais voilà, alors là, du coup, je vais en choisir.
Il y a une forme de mélodie dans la peinture,
ah,
parfois.
Ah, c'est de la composition. Ouais. Hein, on compose, en fait. Quand on ouais. peint, on compose. Hein. C'est juste une toile au lieu d'être une musique, mais il y a beaucoup de choses similaires. Une palette, on peut faire plein de parallèles. Et je sais pas, là, tout de suite, je vais citer Turner. Moi, j'ai envie de citer ça. Je ne m'en lasse pas. Je peux y passer des heures.
T'arrives à éprouver la même émotion face à une peinture C'est intéressant, ça, le rapport à l'émotion.
C'est pas pareil.
Et si typiquement, on pouvait imaginer des sujets de recherche sur la peinture à l'image
Alors
de
moi,
ce que
je,
vous faites.
Alors moi, je vais pouvoir imaginer, ressentir l'émotion, en tout cas cette sorte d'exaltation qui peut être procurée par la musique. Quand je peins, quand je suis dans l'exercice de peindre, oui. Que je fais d'ailleurs très souvent en musique. Après,
tu joues aussi en musique?
Non, j'écoute.
Ah, ok.
Pendant que je peins. Ouais. Par contre... face à une peinture, c'est pas le même type d'émotion. Voilà, dans une exposition, mais ça va plus être des fois un choc comme ça. On voit une œuvre et c'est voilà, ça va marquer. Ça peut marquer très fort. C'est pas pareil que le spectacle vivant ou la musique où on peut pleurer devant un spectacle de danse. C'est pas pareil.
Et donc tu l'as évoqué, tu peins.
Bah oui, je peins. Je peins depuis longtemps, depuis toujours.
Un type de...
Ah bah ça grandit avec la personne, donc ouais.
À l'image de Picasso qui a eu ses phases bleues, oh, etc.
C'est gentil de me comparer à Picasso. Oui, bien sûr.
J'ai pas vu tes œuvres. Hein, j'ai pas vu.
En non, toute humilité.
C'est cette idée qu'il y a des phases de.
Ah ouais, mais complètement. Ouais. Bah c'est de toute façon c'est un reflet de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, de notre maturité. Donc on commence par des reproductions. J'ai évidemment commencé par. Bon, j'ai pris beaucoup de cours et puis j'ai reproduit. J'étais baigné dans l'univers des impressionnistes, une grande fan de donc la peinture impressionniste, je les ai tous reproduits, je les ai tous refaits. J'avais participé à un concours Paris Jeune Talent en 2006, je crois. J'avais 20
quand
ans.
On aime, on compte pas.
Et c'était ça, genre, j'avais toute une expo sur des reproductions de peinture impressionniste. Et puis après, j'ai grandi, donc j'ai commencé à faire par moi-même, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand j'étais jeune et que j'avais pas d'enfant.
Tes propres créations, ouais.
Ouais, et après, on part par nous-mêmes.
Et sur tes créations, tu parlais tout à l'heure de la thématique de la confiance en soi, notamment quand on est une femme, mais je pense que c'est aussi valable pour des hommes. Quand on crée, il y a une sorte de mise à nu. Ça, tu l'as déjà partagé.
Alors, c'est... En fait, je suis assez timide et solitaire. Les gens disent toujours, mais pas du tout, quand je dis ça. Et donc, quand on peint, on est seul face à sa toile. C'est pas un exercice qui se fait en public. Je n'y arrive pas, d'ailleurs. Et donc, après, quand les œuvres sont terminées, enfin, les œuvres, je vais dire les toiles, parce que je veux pas... et qu'elles sont regardées par d'autres, on n'est plus... voilà,
on n'est plus maître de...
Voilà, de ce qui va être ressenti en face. Donc, c'est moins... Ça expose moins, beaucoup moins... Que quand on joue, qu'on chante face à quelqu'un. Donc en fait, ça protège.
Et qu'est-ce qui te fait peindre ?
Beaucoup les voyages à une époque. Tout ce qu'on peut observer. Donc c'était le.
Pardon, je me reprends. Ouais. C'est pas qu'est-ce que tu peins, mais qu'est-ce qui te fait peindre ?
Ben, ce que je vois, ce que je ressens, ce que je vois. Après, ça va être soit dans le thème, soit dans les couleurs, parce que j'ai eu une phase aussi où c'était de l'abstrait. Globalement, c'est un voyage émotionnel. On a des couleurs et puis il se trouve que ça se retrouve à un moment sur un cadre blanc. C'est...
Tu évoquais tout à l'heure déjà petite ton goût pour le dessin. Donc c'était peut-être tes premiers dessins, tes premières peintures. Ce qui me fait une transition un petit peu hasardeuse pour cette rubrique. Je te propose, Nathalie, de répondre du tac au tac. Et tu peux aller puiser dans ta vie pro, dans ta vie perso, au choix. Pareil, c'est volontairement large. Premier apprentissage.
Ok, ouais, je prends la transition. Parce que du coup, j'ai...
Merci. Non, je m'arrête il y a 5 minutes et puis on en reste là.
Non, mais
là.
C'est vrai que j'ai réclamé très vite. J'étais un peu têtue, hein, petite. Je crois que ça s'est resté. Je voulais absolument prendre des cours de dessin. Je saoulais mes parents à 5 ans. Je vais faire des cours de dessin, je vais apprendre à dessiner. Bon, ils m'ont dit, bon, t'es trop petite, hein, ça commence à 6 ans. Non. Bon, bah, ils ont dit, bon, on va la mettre au cours et puis elle va voir qu'elle est trop petite. Quand on reviendra la chercher 2 heures après, elle aura compris.
Si le chevalet est 1 mètre au-dessus, elle va bien comprendre.
Elle aura compris que c'est trop long pour elle. Ouais. Bon, le problème, c'est qu'ils sont revenus 2 heures après, je voulais pas partir. Donc, à l'époque, je me rappelle très bien. Ça s'appelait l'Académie régionale des Beaux-Arts, dans le Val-d'Oise, là où on était. Et c'était une vieille dame et un vieux monsieur qui était professeur de peinture et de dessin et qui ont dit, mais on va la prendre, en fait. On va la garder, cette petite, parce que elle n'a pas fait un bruit pendant 2 heures. On voit qu'elle est bien. Donc non, ouais, on va la garder. Voilà, premier apprentissage.
Première fois où tu as compris que ta parole comptait
À table, avec mes sœurs, en réclamant ma part du gâteau.
Premier renoncement.
À quoi j'ai renoncé ? Ah, peut-être un petit peu de liberté quand les grossesses, la maternité. C'est voilà, il faut accepter qu'on renonce à des choses quand on fait des enfants.
Nouvel équilibre. Premier coup de culot. Pro.
Pro. Franchement, il n'y a eu que ça, je pense. premier coup de culot, j'étais en... c'est un peu avant le pro, mais c'était dans la même lignée, à l'école d'ingénieur. Donc j'ai quand même fait Supélec, qui est une école technique. Donc, on a un stage, ils appelaient ça un stage ouvrier à faire. Donc, c'est un stage ouvrier, normalement, dans des usines, voilà, on doit aller dans des process industriels. Là. Et moi, je suis arrivée avec une demande de stage au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, donc au laboratoire du Musée du Louvre. Je me rappelle encore du directeur des études qui me dit bah, « Nathalie, c'est quand même assez éloigné de te dire que c'est très intéressant. » Je lui ai dit « Non, mais c'est ça ou rien, de toute façon, je veux faire ça. » Voilà, je l'ai, le stage, donc je vais aller faire de la radiographie sur des œuvres du Musée du Louvre et je vous assure que ce sera intéressant. Et, bon, il m'a laissé faire parce que je pense que... Voilà, mais c'était... C'était culotté.
C'est pas attendu. premier salaire de dirigeant. Ça n'a pas été un sujet. Il a payé, parce que souvent, les entrepreneurs, c'est pour cette. Pour la raison pour laquelle je pose la question, ouais. C'est que souvent, les entrepreneurs ne se payent pas pendant un moment. C'est intéressant de le rappeler. C'était peut-être pas le cas avec IRCAM Amplify.
Alors,
c'est la structure.
C'est ça. En fait, je suis très chanceuse hein, et je le reconnais. Et je suis hyper admirative de ces entrepreneurs-là qui partent de rien avec un projet qu'ils portent eux-mêmes personnellement. Effectivement, là, j'ai créé une société qui est une filiale. Donc, quand je suis arrivée sur un poste en CDD, où, en fait, comme il n'y avait rien, c'était... D'abord, c'était est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Donc, pendant 6 mois, on a exploré, j'ai passé mon temps à faire des entretiens et tout, mais c'était un poste, quoi, un CDD. Et ensuite... on a créé la société, on a créé la SAS et du coup, j'ai pu, on a levé des fonds et j'ai pu tout de suite avoir un salaire. Donc non, je suis
premier client.
Franchement, le tout premier, la posture, j'ai un client, c'est je suis consultante. J'arrive donc dans un cabinet de conseil. Parce que j'ai eu un match avec un des associés qui voulait développer la practice culture au sein de secteur public. Donc, encore une fois, on fait le lien avec la culture et je voulais trouver cette connexion-là. Donc, j'arrive dans ce cabinet qui, à l'époque, s'appelait Ineum Consulting, qui est la branche conseil qui est sortie de Deloitte après le scandale audit conseil des années auparavant. Et ils me mettent sur une première mission, un truc de système d'information horrible, parce que j'étais ingénieur, donc fallait. Voilà. Et en fait, ça va être sans moi. C'est soit je fais des missions dans le conseil, dans la culture, dans les musées. Donc premier client, ça devait être, je sais plus comment ça s'appelait à l'époque, les trucs de SI dans l'État là, c'est horrible.
Premier client, IRCAM Amplify.
Ah. C'est MK2.
Pour faire quoi ?
On avait fait une étude géniale. Pour sonoriser le musée du PSG au Parc des Princes. Donc, recréer des ambiances sonores, immersives, puisque ce musée se visite...
Et c'est MK2 qui portait ça ?
Oui, c'est MK2 qui est exploitant, en fait, opérateur exploitant de ce musée-là. Et donc, envisager des projets pour sonoriser tout ça, faire des ambiances de stade alors que le stade est vide, en gros. Voilà. Donc, c'était au tout début. Hein. Franchement, c'était 2019. On cherchait encore même le modèle économique. On était...
Sans transition, je te propose de prendre les manettes de notre pays. On a à peu près tous les pouvoirs ici, donc te voilà présidente.
Française, français.
C'est pas un fake voices.
Il y en a eu un, de Macron.
Ouais. Je te donne les manettes de l'État. T'as envie de changer quelque chose, de pousser quelque chose ?
Franchement, je pense que je mets les enjeux de réchauffement climatique et d'écologie avant tout. Voilà, j'imagine que sur le papier, c'est simple à dire, et puis en fait...
ça a beaucoup d'incidence.
C'est une complexité inouïe, et puis en fait, on est coincé dans un fonctionnement dans une machine, dans un système où ça n'arrive pas à remonter plus haut parce qu'au-dessus, il y a déjà tellement d'autres problèmes. Donc, bien sûr qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, il y a des problèmes de mélange
de mobilité,
de richesse,
de mobilité.
Donc, c'est horrible de se dire qu'on n'a même pas le temps ni la bande passante pour mettre ça plus haut. Et, parce que je ne doute pas que tout le monde essaye. Enfin, je ne doute pas. Je veux dire,
oui, a priori, personne n'a intérêt à...
Voilà, mais voilà, je dirais ça. C'est un peu la réponse évidente et facile, vu qu'on sort de 3 jours de canicule et qu'on est tous angoissés. Enfin, c'est... Voilà. Bref.
Et pendant 3 jours de canicule, malgré tout, on était content d'avoir la clim qui ne sert pas
problème. Je sais pas, ouais. Nous, notre clim était en panne, donc je botte en touche.
Bien joué.
C'était horrible.
sans transition, je te propose de nous partager ta claque, celle qui a été intéressante, qui a forgé la femme ou l'entrepreneur que tu es. C'est juste après ça.
Wow.
En tout cas, une claque qui a été riche d'enseignements.
Alors, il y en a eu plein en fait, hein, mais un déclic quand même, c'est on a tous, je pense, on a tous peut-être pas, mais j'avais une sorte de rêve quand j'ai commencé à travailler, c'était travailler dans un musée. Je me disais être voilà dans l'équipe dirigeante d'un musée, voir fonctionner ça, c'était donc dans un musée, dans un grand musée quoi. Et puis un jour quelqu'un que voilà je citerai pas, mais il m'a dit très gentiment, mademoiselle, votre CV est très intéressant. Donc, j'étais déjà en poste à Radio France, hein, je vous conseille de changer de rêve parce que vous n'avez pas fait l'ENA. Alors, soit vous faites l'ENA, soit oubliez de bosser dans la culture. Ou alors, sachez-le, vous c'est pas que vous n'allez pas trouver de travail, c'est plus que vous n'aurez jamais la main.
C'est radical.
Bah oui, mais au moins, on gagne du temps, quoi.
Ouais.
Et puis... Donc, je me suis dit, ah, c'est intéressant. Et puis, j'ai continué à aller rencontrer pas mal de monde quand même pour finir de me faire un avis. Et effectivement, en fait, quand on a un diplôme d'ingénieur et quelques années d'expérience, même si c'est intéressant, en fait, voilà, c'était une leçon parce que je suis un peu sortie de ma naïveté, peut-être. Et puis, et en fait, c'était super parce que je suis 1000 fois plus heureuse et satisfaite là où je suis aujourd'hui. En plus, je bosse au contact de la science et des ingénieurs, et je trouve ça, le mélange des deux, c'est ça qui me fascine aujourd'hui. C'est
parfois un rêve qui s'éteint, c'est...
Oui, oui, oui. Non, mais c'est comme mon prof de physique en terminale qui me dit, je voulais faire les beaux-arts, et qui me dit, mais Nathalie, c'est super, hein, c'est très, très beau de vouloir faire les beaux-arts, mais réfléchis bien, parce qu'il y a une différence entre peindre pour manger... ou avoir toujours à manger et pouvoir toujours peindre. Enfin, un truc comme ça. Ah, ah j'ai quand même, je suis rentrée chez moi, je me suis dit, merde. ça a l'air d'être important, ce qu'il vient de nous dire. Bon.
Je te propose, si tu veux bien, et encore une fois sans transition, pardonne-moi, je ne l'ai pas trouvé, de presque finir avec ta carte blanche.
Carte blanche pour 40 nuances de Next.
Je te remets dedans. C'est le moment où tu as 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes devant toi pour aborder le sujet de ton choix qu'on n'a pas abordé et que tu trouves important.
La meilleure transmission, aller encore plus loin dans le transmettre aux petites filles l'envie d'aller faire des maths, d'aller faire de la physique, d'aller en médecine, en école d'ingénieur, de pas avoir peur de tenir tête aux garçons quand on est en primaire, au collège, au lycée, puis dans la vie professionnelle, voilà, de tenir tête, quoi, et de transmettre cette envie, cette curiosité d'aller écrire du code, comprendre comment fonctionne un ordinateur, un algorithme, lire des livres de science, se plonger dans une littérature scientifique. C'est encore trop timide, quoi. C'est encore et c'est pas que des quotas de faut la moitié des femmes au gouvernement.
C'est même pas une question de quotas parce que je crois qu'il y a, je sais plus à quel niveau c'est, mais
un faux problème le quota.
Mais je crois que les filles, je sais plus à quel moment de leur scolarité, sont globalement meilleures en maths que les garçons, et pourtant.
Oui, oui, pourtant. Parce que je pense qu'elles le bossent. Enfin, pardon, parce que ça fait un peu généralité, mais Non, je ne veux pas dire ça.
Au-delà de la généralité possible, parce que ce n'est pas qu'elle bosse plus, ouais. Elle bosse moins. Mais par contre, c'est peut-être une question d'orientation ou de projection, simplement.
Oui, et puis de encore une fois, de structure où finalement, il serait tout à fait normal d'aller s'amuser avec les maths comme de s'amuser avec la musique ou avec le sport. Ou, c'est quand même assez... Il y en a de plus en plus, mais c'est quand même... assez faible, de proposer dans les cursus scolaires aussi des choses évidentes où on ne peut pas faire une terminale sans faire de maths. Et puis, peut-être de réfléchir sur les projections, notamment dans les écoles d'ingénieurs, etc., à, bah, qu'est-ce qui pourrait attirer plus de personnel féminin, quoi. Pourquoi elles viennent pas, pourquoi elles se sentent pas à l'aise. Bon, je sais qu'il y a des écoles qui s'y penche sérieusement, ouais. Parce que c'est un sujet.
Il va vite falloir répondre au pourquoi.
Oui, oui.
Je reste sur cette réflexion fille-garçon, homme-femme. Est-ce que sur le sujet que vous traitez autour du son, il y a des différences majeures, des apprentissages particuliers, intéressants, étonnants, aucun ?
Non, j'ai pas ça en tête. J'ai pas ça en tête, non. Puis comme je veux absolument pas dire de bêtises...
Non.
Alors là,
non, mais si quelque chose était ressorti, je pense que ça te serait... Tu t'en serais rappelé.
Ouais, non, ouais. Et puis comme... j'ai eu de la chance de ne tomber personnellement que sur des personnes, femmes, mais surtout hommes, qui n'ont pas fait de différence. Enfin, moi, je me suis jamais dit... que j'étais là parce que j'étais une femme. Ça n'a jamais... Je sais que dans leur esprit, c'était pareil. Alors que j'ai passé des entretiens d'embauche enceinte jusqu'au cou.
Ça aurait pu refroidir certains...
On est d'accord. Donc, à l'IRCAM, en l'occurrence, ouais. J'étais à 2 jours d'accoucher pour accepter le job. C'est toujours l'anecdote. Mais que ce soit sur le fond ou la forme, je...
Je pensais plutôt sur l'approche, le rapport à la musique, le rapport au son, non plus.
Non.
Ok.
Non.
Si on avait dû ensemble choisir une sista, une femme entrepreneur que t'admires et que t'aurais aimé nous faire connaître, tu aurais choisi qui ?
Alors je vais dire Clotilde Chalot.
Nomadplay.
Parce que on se connaît pas hyper bien, mais on s'est croisé à la remise des prix Femmes de culture. Et voilà,
c'est brillant ce qu'elle fait.
Et puis alors, elle dégage une énergie, ouais. une envie de la suivre qui est géniale. Il en faudrait plus des filles comme ça.
Ouais, il y en a plein, mais on peut pas toutes les citer.
C'est vrai qu'il y en a plein.
Mais pour une fois, ça me fait très plaisir parce que je peux recommander à nos auditeurs et auditrices d'aller découvrir son interview sur le fil 40 nuances de Next. On a eu le plaisir de l'avoir à notre micro parce que c'était Louis-Alexis de Gemini
qui l'avait
choisi tout à
D'accord.
fait. Qui est parti à 10h, mais qu'on a vu aussi. Donc, merci à
c'est
toi.
C'est un petit moment.
L'univers sonore, musical, les femmes dans cet univers et dans la tech, fortiori, il n'y en a effectivement pas des millions, pas encore.
Mais il y en a plein, c'est vrai. Et ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité.
Mais on t'a écouté et on a tous un travail à faire pour mettre plus de petites filles derrière les maths, les algos et la tech d'une façon générale. En tout cas, c'est une question de confiance, si j'ai bien compris, mais pas que. Donc on a tous du taf. Un immense merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Je te libère, je crois, pile on time. Parce que tu avais des impératifs, mais je crois qu'on est pile à l'heure. Donc tu vois, on a
génial,
bien joué.
C'était un plaisir.
Un gros plaisir pour nous. Merci.
Merci beaucoup.